sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Dans l'actualité de l'Académie des Beaux-Arts en cette fin d'année, Canal Académie braque son projecteur sur le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts 2011 et sur l'exposition de Vladimir Velikovic à Toulouse. Le concours d'architecture s'attaquait cette année à la difficile question du logement étudiant, déception du jury, manque d'utopie des lauréats. Le jury partagé n'a pas attribué de premier prix. Morosité ambiante ? L'humour de Claude Parent est bien connu depuis la parution d'un petit ouvrage dans lequel il avait gentiment brocardé ses confrères architectes par des textes savoureux accompagnés de leurs portraits nés sous son crayon. C'était « Portrait d'architecte, impressionniste et véridique » aux éditions Norma, publié en 2005. En fait, un état des lieux distancié sur sa profession. Connu pour être l'architecte de la fonction oblique, ayant goûté le sel de la provocation durant toute sa carrière, par l'originalité de ses constructions, dont la plus célèbre est l'église Saint-Bernadette du Banlay, classée monument historique, il est, du haut de ses 88 ans, le président du jury du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Son œuvre graphique et architecturale incarne l'architecture utopique, qui lui vaut depuis ces dernières années d'être une référence pour les jeunes architectes après un relatif oubli. Cette année, le jury avait proposé pour sujet le logement étudiant, une question cruciale vu l'insuffisance de l'offre, alors que la population étudiante augmente. Parmi les 66 dossiers reçus, les projets des 16 finalistes, pragmatiques, inventifs, dont les projets des lauréats bien sûr, sont exposés à l'Académie des Beaux-Arts, salle Comtesse de Caen, sur le parvis de l'Institut, 27 quai Conti à Paris. L'entrée est gratuite et l'exposition dure du 14 décembre au 5 janvier. Ce Grand Prix d'architecture est ouvert à tous les architectes étudiants en architecture n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans, au 1er janvier de l'année en cours. Il a été créé en 1975. Le prix se divise en trois récompenses, un grand prix doté de 20 000 euros, un deuxième prix de 9 000 euros, un troisième prix de 4 000 euros et deux mentions de 3 000 euros chacune. Retrouvons Claude Parent sur le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts de l'année 2011. Claude Parent est membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2005 et au sein de l'Académie avec ses confrères architectes, il accorde beaucoup de son temps à la finalisation du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Il s'agit chaque année de récompenser trois lauréats par un grand prix, un premier grand prix, un deuxième prix et un troisième prix. Le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts existe depuis 1975. Le sujet, l'an dernier, portait sur un habitat d'occupation transitoire. Quel habitat proposer en cas de catastrophe naturelle ? Cette année, le jury a proposé aux lauréats de présenter un projet sur la délicate question du logement étudiant qui pose problème dans la mesure où la demande excède l'offre au point de poser un véritable problème social. Une question d'architecture contemporaine qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt des candidats. Claude Parent, bonjour.
Bonjour madame.
Claude Parent, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet cette année ?
Quand j'ai pris ce prix en main avec mon regretté ami Folliasson, on se rendait compte que les sujets étaient encore trop généralistes et qu'ils s'occupaient plus des grands bâtiments d'importance, les bâtiments de l'État, des trucs comme ça. Ça manquait de quotidien là-dedans.
Comment les candidats ont-ils répondu de manière générale cette année ? Vous avez reçu près de 66 dossiers, à peu près il y a 55 architectes qui sont tous âgés de moins de 35 ans, ça c'est conforme aux conditions du concours. Et puis il y avait également 15 dossiers présentés par des étudiants qui ont justement dû être particulièrement sensibles à la question posée.
Oui, pour des raisons bien connues, on est obligé d'avoir le plus de candidats possible et après de faire un premier choix des vins qui nous intéressent pour qu'on puisse s'apesantir. Regarder des projets, c'est long, ça exige beaucoup de temps, beaucoup d'attention, qu'on puisse faire un bon jugement, un jugement qu'on puisse défendre. On peut dire qu'on a eu une petite déception, parce que ils n'ont répondu qu'à un point sur les trois qu'on n'avait pas analysé premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais qu'on avait indiqué par des phrases pour leur dire « Vous pouvez par exemple choisir un terrain qui vous intéresse particulièrement, on vous laisse le choix du terrain, etc. » On leur a dit aussi que ce qui était important, c'était ce qu'on appelle la chambre d'étudiants, c'est-à-dire le petit réduit dans lequel ils vont exercer, dormir et exercer leur travail et leur réflexion, etc. Et ils ont laissé tomber pratiquement deux critères sur trois. C'est très curieux. C'est pour ça qu'on a été déçus, non pas par leur réponse, qui était intéressante, mais par le fait qu'ils aient surtout parlé de la localisation. C'est curieux. Ils ont choisi les berges de la Seine, ou ils ont choisi les toits, comme nous verrons tout à l'heure.
Ça révèle peut-être un souci ou une préoccupation qui a pris le dessus sur la chambre ou l'espace étudiant, c'est-à-dire l'endroit où on doit vivre par rapport à l'endroit où on doit aller étudier. Et ça, ça semble être devenu la préoccupation majeure, la perte de temps dans les transports. S'ils ont peut-être fait ça, c'est peut-être pour cette raison.
Vous avez raison. Au fond, on n'aurait pas dû leur en vouloir. On leur a voulu parce que c'était donner du mal pour rien et que c'était au détriment de la forme architecturale, de la typologie. Mais en fait, le renvoi que nous a fait à nous jurés et à l'ensemble de la profession, tous ces étudiants qu'on avait mis en pleine liberté. On leur avait dit, pour une fois, on ne vous dit pas comment il faut le faire, on vous demande de dire comment vous le souhaitez. C'est la première fois. D'habitude, c'est l'éducation nationale ou un promoteur qui décide que vous allez vite comme ça en disant, ils seront bien contents. Et là, non, on vous dit, dites-nous ce que vous souhaitez. Alors, tout ce qu'on a reçu, c'est que vous nous dites d'abord, en premier et en groupe, et à l'unanimité, on veut être en ville. Pas un n'a parlé de campus. Ah, j'ai dit, ça devrait nous faire réfléchir quand même. C'est comme un petit référendum où tout d'un coup, le type dit, mais moi je veux vivre en ville. Moi je veux vivre en ville. N'importe où en ville, puisque, et je vous dis, comme on le verra tout à l'heure, il y en a qui ont choisi les toits de Paris, il y en a qui ont choisi les berges de la Seine, là, il y en a qui ont choisi des ronds-points.
Est-ce que c'est parce que le campus en France n'est pas très développé, le campus universitaire, mais vous avez reçu aussi des dossiers qui venaient de l'Europe entière, mais quand, c'est ce qui est ressorti.
Quand on connaît les campus à l'anglo-saxonne, on voit bien que nos campus à nous, n'ont rien à voir.
Vous, cette année, deux prix ex-aequo ont été donc récompensés, Florian Dorme et puis Simon Moisière. On va peut-être commencer par le projet de Florian Dorme qui part de l'existant et du parc immobilier inexploité. Ça a été sa démarche.
Il faut dire qu'on a été un peu dur puisqu'on les a mis, au lieu de mettre un premier prix, on a mis deux seconds prix. Il a dit, bah, y a des toits qui ne servent à rien. Et il y a beaucoup de moments où les architectes, quand on les interrogeait sur le Paris, des gens que j'ai connus, des architectes que j'ai connus, qui voulaient utiliser les toitures parisiennes et qui voulaient même les réunir par une espèce de pont,
de passerelle,
pour que tout d'un coup, les toitures de Paris, je ne sais pas si c'était, je ne me souviens plus, l'architecte qui avait inventé ça, pour qu'on ait un Paris sur terrasse, par exemple, avec communication, etc. Donc, vous voyez, c'est une idée qui est bien dans l'architecte. Pourquoi gaspiller ce toit-terrasse des immeubles qui est, comme le disait le jeune ce matin quand il a présenté son projet, l'endroit le plus beau dans une ville pour avoir le spectacle de la ville et pour avoir l'horizon en même temps. Tout d'un coup. Donc, il a bien fait ça. Alors, ce qui est intelligent chez lui, pour dire pourquoi on l'a accepté et on lui a donné un des deux second prix en question, c'est que il s'est bien rendu compte qu'il y avait eu un objectif impossible à atteindre si les gens de l'immeuble n'étaient pas d'accord. Donc il a sélectionné dans Paris, et il paraît qu'il fait un premier prototype, lui, les propriétaires d'un immeuble. C'est-à-dire, il a cherché des immeubles dont un seul monsieur est propriétaire, et non pas une copropriété, et non pas un immeuble de promoteur, non, un immeuble, et il paraît qu'il y en a beaucoup.
Et que ça donne 14 000 chambres d'étudiants possibles.
Oui.
Donc, effectivement, on peut se pencher sur,
c'est une bonne idée.
Ouais.
Bon, alors maintenant, reste à savoir. Alors, il a trouvé un cobaye, c'est formidable, il paraît qu'il en fait un. Alors, au fond, quand on voit ses dessins, ils sont très ambitieux, très marrants. C'est comme s'il construisait un petit village champêtre, même, avec des arbres, sur la toiture terrasse d'un immeuble, et ça n'a rien à voir avec l'immeuble. C'est autre chose. C'est un élément étranger, habitable pour des étudiants, et c'est réputé être pour les étudiants. Il ne s'agit pas de mélanger.
C'est un espace supplémentaire, comme une deuxième paroi, une deuxième peau sur le dessus.
Donc, c'est envisageable.
Alors, deuxième prix ex aequo, le projet de Simon Moisière, qui est parti d'une problématique tout à fait différente. Au lieu de partir d'immeubles existants, il est parti d'espaces inexploités existants, à savoir des trous, en prenant en exemple les trous laissés par les échangeurs d'autoroutes autour du campus de Saclay. Ça fait beaucoup d'espaces inexploités, et c'est de là qu'il est parti.
Alors là, c'était quelque chose qui était très intéressant pour moi, parce que on voyait une architecture avec une typologie très particulière, une densité de raccordement des chambres d'étudiants, une création grâce aux formes très dirigées vers l'extérieur et vers l'intérieur par des sortes d'antennes comme ça, une possibilité de trouver des espaces au lieu de rues et de couloirs intérieurs, des espaces qui étaient des espaces assez dilatés, assez chahutés, qui permettait non pas d'aller dans son petit couloir pour gagner sa chambre, mais de parcourir un espace qui avait une réalité. Ça, c'est très beau. De l'extérieur, ça se présente évidemment d'une façon très vigoureuse, comme une tour, mais une tour qui a des antennes dirigées vers le pourtour.
Vers l'extérieur.
Vers l'extérieur, qui fait que les vues des fenêtres depuis l'extérieur vers l'intérieur ou vice-versa vers le paysage sont agrémentées. Ce ne sont pas des, comme dans nos immeubles, des fenêtres côte à côte sans fin. Il y a une recherche de forme et de vécu là-dedans très intéressante.
Le troisième prix a été attribué à Emmanuel Manger, qui part, lui, de l'idée de créer un bâtiment, alors vraiment dans la cité existante, mais un bâtiment qui affirmerait une identité particulière, qui pourrait être reconnaissable comme un bâtiment pour les étudiants. Alors, où est la nouveauté? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors, c'est vrai qu'il a une architecture particulière. Ça s'est vu tout de suite parce que il a montré d'abord les rampes. Donc, il croyait avoir mon acquiescement immédiat, puisqu'il utilise des rampes de circulation qui sont montrées dans une des façades.
C'est une façade.
C'est une façade avec des rampes de circulation. Mais ça allait plus loin que ça. Il faut voir la coupe qui était extrêmement complexe que vous voyez là, où on s'aperçoit que il n'y a pas simplement une distribution par escalier ou par ascenseur ou voire par rampe, et pour arriver toujours au même niveau. On n'arrive pas au même niveau. Il y a une complexité de répartition des étages qui fait que suivant qu'on prend une distribution ou l'autre, une rampe ou un escalier ou un autre moyen, on n'arrive pas au même étage. Autrement dit, la séparation par étage, comme tous les immeubles traditionnels, même ceux qu'on a vus, qu'on vient de voir, est changé.
Merci Claude Parent. Un mot encore sur le Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts. Deux projets ont fait l'objet d'une mention du jury. Le projet d'Hugo Badia-Berger, intitulé « La Malle », proposait avec un brin de provocation une malle dans laquelle l'étudiant pouvait satisfaire les quatre activités qui rythment sa vie, le travail, la cuisine, la toilette et le sommeil. Il y construit ainsi les moyens d'une autonomie qui a séduit le jury, car il est un des rares à s'être prioritairement penché sur ce qu'on appelle habituellement la chambre d'étudiant, faisant même de l'étudiant l'architecte de sa chambre. La malle serait à déposer sur les toits parisiens post-1950, inexploités. Elle est faite de planches en bois et d'objets ready-made et dispose de batteries électriques et de réservoirs d'eau. Un confort rustique assiste ainsi l'étudiant dans la difficile prise de conscience des enjeux environnementaux, le forçant à se limiter dans ses usages. La deuxième mention a été attribuée à Alexandre Sianco pour son projet Estudiantaire, dont le nom même évoque les familistères et les phalanstères du XIXe siècle. Il a localisé son projet à Nantes, la ville où il a étudié, choisissant d'investir un ancien garage circulaire à rampe continue des années 60, et la rampe s'enroule autour d'un patio central aboutissant à un jardin sur le toit. Un amphithéâtre et même un sauna, en plus des chambres prévues, entendent faire de ce bâtiment une nouvelle pièce majeure de la ville. Entre l'architecture et la peinture de Velikovic, on pourrait croire qu'il n'y a aucun rapport. Ça serait oublier que Vladimir Velikovic est architecte de formation, diplômé de l'école d'architecture de Belgrade. S'il a troqué l'équerre pour les pinceaux, son sens de la composition et de l'espace, dans ses toiles et ses dessins, relève peut-être de cette première formation. Le musée des abattoirs à Toulouse lui consacre la plupart de ses espaces pour une exposition qui dépasse la rétrospective chronologique, en faisant dialoguer ses œuvres par thème pour en montrer la profonde cohérence depuis 50 ans. Retrouvons Amélie Adamo sur ce sujet, commissaire avec Alain Moussaigne de l'exposition Vladimir Velikovic, Les versants du silence. Amélie Adamo, vous êtes docteure en histoire de l'art, spécialiste des questions de transmission, de temps et de mémoire dans la peinture du XXe siècle. Ce sont des questions que vous rendez passionnantes. Vous êtes critique d'art, vous enseignez dans des écoles d'art à Paris, à l'ICAR, et vous êtes l'auteur de deux livres, Une histoire de la peinture des années 1980 en France, aux éditions Klinsiek, et Métamorphose du sacré sur Vladimir Velikovic, aux éditions Galilée. Vous êtes avec nous pour nous parler de l'exposition Vladimir Velikovic, Les versants du silence, présentée au musée des abattoirs de Toulouse depuis le 17 novembre 2011, dont vous êtes le commissaire avec Alain Moussaigne, vous êtes en effet deux. C'est une exposition exceptionnelle, à voir encore jusqu'au 29 janvier 2012. Un mot sur les abattoirs. Les abattoirs sont devenus quand même une plateforme de la création artistique contemporaine incontournable, où on a le plaisir d'aller bien entendu découvrir les expositions temporaires ainsi que les collections permanentes. On a aussi plaisir à retrouver tendu sur l'un de ces murs immenses, en permanence exposé, le rideau de scène peint par Picasso en 1936 pour la pièce de Romain Rolland qui avait pour titre Le 14 juillet. C'est une pièce qui fait aussi la réputation des abattoirs. Mais pour l'heure, revenons à l'œuvre de Velikovic, dont on a à Toulouse une magnifique vue d'ensemble, une peinture contemporaine qui s'insurge contre l'anéantissement de l'être et contre ce que l'homme est capable de faire à l'homme dans ce qu'il y a de pire pour résumer ou introduire cette peinture, pourtant viscéralement positive, malgré la dureté des questions qu'elle aborde. Amélie Adamo, bonjour.
Bonjour.
Alors comment avez-vous, vous, personnellement d'abord peut-être découvert la peinture de Velikovic ?
Alors Velikovic, pour moi, ça a été une découverte liée à mes études. Donc ça fait plusieurs années que je connais son travail, que j'ai découvert. En fait, vraiment, à partir du moment où j'ai commencé ma thèse, qui était l'ouvrage que vous avez cité, qui est paru aux éditions Klinsiek, c'était en fait une publication liée à mon travail de thèse. Et c'était rattaché à la question des citations et des emprunts dans la peinture des années 80 en France. Et parmi tous les peintres qui étaient regroupés dans le livre, dans l'étude, dans la thèse, il y avait le travail de Velikovic. Et donc, pour moi, ça a été un coup de cœur. Et d'emblée, ce qui m'a intéressée chez lui, et c'est un petit peu un sujet qui du coup a mûri au travers de ma thèse et qui est assez, c'est quelque chose qui mûrit dans ma tête depuis longtemps, c'est effectivement cette question du sacré dans son travail. Puisque j'étudiais la question des emprunts et des citations, nécessairement, je me suis intéressée d'abord à ce qui, dans sa peinture, renvoyait au motif de la crucifixion.
Alors, on va revenir là-dessus. Voilà. Amélie Adamo, pourriez-vous décrire pour les auditeurs une toile de Velikovic comme si vous adressiez à une personne qui ne connaît pas l'œuvre de ce peintre?
Alors, je choisirais là un tableau atypique dans son œuvre. Ça serait, imaginez que vous déambulez dans un paysage désertique, que vous regardez sur votre droite, que vous regardez sur votre gauche, que vous regardez face à vous, que vous regardez derrière vous, qu'il n'y a en fait qu'un paysage complètement désolé, avec un silence absolu, un silence de mort, complètement désertique, avec simplement un soleil de plomb, un soleil noir, avec des potences qui se dressent à l'horizon, seul signe en fait de présence humaine ici, avec des trous au sol qui peuvent rappeler éventuellement des charniers ou des endroits où on aurait amassé des corps, ou... mais sans présence humaine, simplement des indices qui renvoient à ça. Et surtout là, dans ce rapport au silence, quelque chose qui d'un coup va monter sur ce silence, ça sera des bruits assez angoissants, des bruits oppressants, un feu qui crépite, une corde qui va, ou une potence qui va couiner sous le vent qui se met à bruisser, un rat, un couinement de rat, dans quelque chose, des sons comme ça, des sonorités très stridentes qui vont monter dans l'obscurité. Je crois que ça, cette question du silence dans la peinture de Velikovic, c'est un peu ce qu'on a essayé de traiter dans le... au travers de l'exposition justement
qui
des abattoirs.
Ce titre,
c'est une dimension,
les versants du silence.
Voilà, c'est un peu poétique. En fait, c'est une manière de vraiment de renvoyer à cette question de la mort et de l'absence, quelque chose qui est vraiment tout le temps travaillé par le tragique. Et l'un des paysages que je viens de décrire, c'est effectivement un des aspects de ce travail-là, qui est en fait travaillé par quelque chose qui relève d'une forme d'inertie, où il n'y a plus aucune vie, où il n'y a plus rien qui bouge, où on est véritablement face à une mort irréversible, sans retour. Mais ça, c'est qu'un versant. C'est un aspect du tragique, en fait, qui constitue, c'est vrai, un pan de son travail, mais qui ne permet pas de saisir un autre aspect. Donc, d'où l'idée de versant, une même montagne, un même pan, deux pans différents d'une même montagne, d'une même chose. Et ce deuxième versant, toujours lié évidemment à la mort et au tragique, à l'absence, c'est en fait comment, au cœur de cette mort, au cœur de cette absence, eh bien, il va toujours avoir une énergie rageuse, comment le vivant va reprendre ses droits. C'est ça qui est touchant, en fait, dans sa peinture. Et le vivant qui reprend ses droits, c'est évidemment, non pas au travers de la notion d'inertie, mais au travers de la question du mouvement. Et la question du mouvement, ça renvoie à l'activité de l'homme, la marge de l'homme, l'homme en course, l'animal en course.
Des questions, des thèmes qu'on retrouve vraiment
exactement
dans sa peinture.
Donc en fait, cette idée-là, elle était vraiment très intéressante, cette question du versant du silence, parce que ça permettait de manière très claire de rendre compte autant d'une permanence que d'une évolution dans son travail, au travers de ces deux aspects. Si vous regardez les thématiques qui sont abordées dans l'exposition, c'est toujours au travers de thèmes qui renvoient soit à une forme d'inertie, soit à une forme de mouvement. On a vraiment deux versant deux pendants comme ça qui se complètent au travers de thèmes qui reviennent systématiquement depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui.
C'est aussi la performance de l'exposition, hein, c'est de rendre compte de sa peinture et de ses dessins et même de sa sculpture, puisqu'il y a une potence justement dans la grande salle. Donc vous avez utilisé pratiquement tous les espaces du musée, ce qui est formidable.
Ça a été, nous avons squatté la totalité du musée. C'est un énorme espace, très grand. On n'a pas investi les salles du haut qui étaient consacrées à la collection permanente. Mais par contre, effectivement, on a investi les salles du premier niveau qui sont consacrées habituellement aux expositions temporaires, mais aussi les salles du bas que Alain Moussaigne, le conservateur du musée, a gentiment ouvert, ce qui n'était pas prévu au début. Mais vu l'ampleur qu'a pris progressivement le projet et le nombre des thématiques...
Combien de pièces sont présentées?
Alors, vous avez à peu près une dizaine d'œuvres par salle. Et on a environ 9 salles. En gros, ça doit faire une centaine.
Voilà, ce qui est très rare quand même. Il y a eu près de 60 pièces de Velikovic présentées à Montélimar il y a 2 ans. Là, on a encore plus de pièces.
C'est encore plus
important. Oui. Et donc, dans les noms des salles que vous avez données au cours de ce parcours, qui sont rien qu'en les citant, ça peut aussi donner quelques indications. Il y a une salle réservée donc Human in Motion, donc oui. Là c'est le côté justement le mouvement. Et vous diriez que la peinture de Velikovic est baroque ?
On peut dire que effectivement la question du baroque, c'est où vous avez vraiment l'idée de surcharge, d'excessivité, qui peut effectivement, mais qui est synthétisée, et ça c'est une pensée qui, je ne peux que le citer lui, hein, parce que c'est un auteur très important et que j'admire beaucoup, et qui a écrit sur, il y a un très beau livre sur Velikovic, Marc Le Bot, qui a justement, au travers d'un ouvrage, mis en avant cette polarité dans le style de Velikovic, qui était effectivement à la fois, qu'on pouvait considérer comme baroque, de par cette excessivité, cette surcharge, cette démesure.
Les excès de l'expressionnisme.
Mais qui était synthétisée avec une dimension aussi classique. C'est-à-dire qu'on sait, et là l'exposition le montre avec certains dessins, on a l'apport évidemment des maîtres de la Renaissance classique type Vinci, Michel-Ange, où vous avez un rapport là beaucoup plus, par rapport au dessin, quelque chose effectivement de beaucoup plus canalisé, un rapport à l'anatomie, dans la description des anatomies. Tandis que le côté baroque, ça, je dirais que ça concerne plus au niveau formel aussi le rapport à la couleur. Cette libération de la couleur, cette gestualité qu'on peut avoir parfois. Deux aspects qui sont en fait très différents dans son travail et qui se retrouvent parfois dans une même œuvre ou parfois au début de sa carrière, des éléments qui reviennent, qui s'effacent, qui reviennent. Il y a vraiment une correspondance comme ça qui nourrit son travail.
Alors, d'une salle à l'autre, hein, il y a une salle consacrée aux gisants, d'autres aux lieux, aux origines et puis aux crucifixions qui sont quand même des grands thèmes chez Velikovic.
Oui.
Une salle sur le néant et sur les têtes, ça fait beaucoup. Tout y est. Comment vous avez réussi justement à pouvoir à peu près tout placer ?
Ça a été un très long travail pour sélectionner les œuvres. En fait, déjà à la base, Alain Moussaigne, qui voulait faire une exposition sur Velikovic, voulait essentiellement faire une exposition de dessin. Sachant que j'avais beaucoup travaillé la peinture de Velikovic et étant en contact tous les deux, il a en fait fait appel à moi pour essayer de trouver en fait des axes d'approche qui seraient intéressants, des choses qui n'auraient jamais été traitées. Et effectivement, là, sur cette question, étant donné que j'avais déjà beaucoup travaillé sur l'œuvre de Velikovic, j'avais des idées. Et ces idées de thématiques ont permis justement de mettre en avant des pans en fait originaux dans son travail. Par contre, alors les thématiques ont été fixées très rapidement, mais la sélection en fait des œuvres pour chaque salle, ça fait à peu près un an, quasiment un an qu'on travaille là-dessus. Et il a fallu sélectionner, ce qu'il faut dire aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore vu l'expo, c'est que par salle, ce n'est pas un parcours en fait chronologique. Les salles sont thématiques, mais donc à l'intérieur de chaque salle, on a pour chaque thème des œuvres qui vont être des œuvres anciennes mélangées à des œuvres nouvelles. Ça, c'était aussi, et en plus de ça, la complexité, c'était de mélanger dessin et peinture.
Ça, donc, c'est un très beau pari de l'exposition.
Voilà.
C'est très réussi parce qu'on a justement une vue d'ensemble par thème. Par exemple, même la première salle, ça commence tout de suite. D'emblée, on est confronté à ça.
Oui.
Et ça permet aussi de respirer dans cette peinture qui a besoin d'un lieu comme les abattoirs, hein, de beaucoup d'espace. Et les grandes, grandes toiles sont placées alors dans la nef centrale des abattoirs. Parlez-nous un petit peu des crucifixions et du rapport au sacré de Velikovic, puisque vous expliquez dans votre livre Les métamorphoses du sacré sur Vladimir Velikovic, qui dialogue, comme d'autres peintres d'ailleurs, avec le sacré. Mais quel est justement son rapport au sacré qui lui vient de l'expérience de la guerre ? Mais vous allez sûrement nous en parler un peu mieux que moi.
Je vais essayer. Ce qu'il faut dire, je crois, d'emblée, parce que c'est très important pour Velikovic. Bon, je précise que j'ai beaucoup parlé avec lui et qu'aussi mon livre, ce sont des idées que je défends, mais je me suis quand même beaucoup nourrie dans de longs entretiens qu'on a eus ensemble aussi. L'idée, la seule idée, je crois, qui tient vraiment au cœur de l'artiste, c'est que quand on parle de sacré chez lui, et c'est un point commun à beaucoup de peintres au XXe et au XXIe siècle, il faut penser donc pour lui à la question du tragique, évidemment. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de l'art, permet de représenter de manière vraiment absolue le tragique ? Vous avez évidemment, quand on regarde l'histoire ancienne, qu'est-ce qui a été peint, sculpté avant ? C'est l'iconographie qui est liée au sacré, à savoir le thème des crucifixions ou le thème des gisants, qui évidemment renvoie au tragique. Mais après,
par les plus grands peintres aussi, ça fait partie de notre mémoire.
Voilà, ce sont des images
la
qui
mémoire
effectivement...
des images que nous avons, croyants ou non, pour tous ceux qui s'intéressent à l'art, on va dire.
C'est ça, ce sont des images archétypales, des choses qui renvoient à la mémoire collective.
Alors, qu'est-ce qu'il en fait, Velikovic ?
Alors,
ou qu'est-ce qu'il n'en fait pas ?
S'il se confronte justement à cette iconographie qui renvoie au sacré, une iconographie religieuse, il faut savoir qu'il n'y a pas de croyance particulière déjà chez lui. C'est un peintre qui est athée. Dans son enfance, il n'a pas eu de rapport particulier avec une éducation qui aurait pu être une éducation religieuse. Il n'y a vraiment pas de dimension de croyance religieuse. Ça, c'est très important parce qu'il insiste là-dessus. Et je crois que c'est encore plus intéressant, justement, de se demander aujourd'hui, moi c'était une question qui me passionnait parce que moi-même je ne suis pas croyante. Je trouvais que c'était très intéressant pour quelqu'un d'aujourd'hui qui justement ne croit pas, ou même d'ailleurs si on croit, je crois que c'est dans les deux cas c'est intéressant, de savoir pourquoi en fin de compte une iconographie religieuse peut continuer de parler aujourd'hui. Et en quel sens elle peut revenir dans une œuvre contemporaine, ça pourrait être aussi dans l'écriture, en quel sens ça peut revenir, réapproprier, détourner, métamorphoser, pour parler à des gens qui sont ici et maintenant, aujourd'hui, dans un langage qui est inscrit dans le présent, et dans des valeurs qui sont complètement différentes.
Est-ce que vous croyez qu'un spectateur croyant, par exemple, peut voir une image sacrée dans un tableau de Velikovic ou pas ?
Je pense qu'on peut voir, en étant croyant, une image sacrée dans une peinture de Velikovic. Lorsque vous voyez tout le travail qui a été fait autour du retable d'Isenheim, vous avez des corps qui sont crucifiés, qui sont représentés. Alors évidemment, il y a une érosion par rapport aux motifs religieux, c'est-à-dire que souvent, par exemple, les stigmates sur le torse, la couronne d'épines, la croix, ça sera plus vraiment une croix, ça sera un agencement de poutres, une croix de Saint-Antoine. Mais malgré tout ça, il y a nécessairement, d'ailleurs dans certains tableaux, l'artiste conserve les stigmates, il y a des croix qui sont très identifiables parfois. Je crois que dans certains tableaux, on identifie quand même cette question du sacré. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est que l'œuvre reste ouverte. De par un traitement qui est extrêmement libre et qui justement prend des libertés par rapport aux motifs religieux, plus qu'une peinture avant, qui peut être une peinture ancienne, véritablement religieuse, étant inscrite beaucoup plus dans les valeurs.
Une codification.
Voilà, et que cette codification peut au contraire, même si ça vit encore aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Velikovic a extrait, je dirais, l'essence de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la peinture religieuse et qui fait que ça parle encore à des spectateurs comme nous qui peuvent être non-croyants. Un corps qui va être foudroyé, allongé, tétanisé. C'est quelque chose qui m'avait vraiment fasciné, une notion qui avait été définie par Abby Warburg, cette idée d'image fantôme, quelque chose qui revient d'une mémoire, l'idée de quelque chose de refoulé. Donc un homme sur une croix, c'est quelque chose qu'on revoit en fait depuis des milliers d'années.
Ça parle toujours.
Voilà, une Pietà par exemple, une femme portant un corps. Eh bien ça, ce sont vraiment des archétypes formels qui restent et ce sont ces archétypes formels qu'ils se réapproprient et qu'il détourne. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui son travail peut parler à un non-croyant parce qu'il prend des libertés par rapport aux motifs religieux, mais peut aussi réactiver, pourquoi pas, en fin de compte le peintre là laisse complètement ouvert l'interprétation, peut réactiver une présence, un questionnement lié au sacré pour... D'ailleurs il y a, vous savez, des personnes croyantes qui ont écrit des textes dans d'autres catalogues d'expos, et pas forcément sur Velikovic, mais sur des expos collectives qui ont été organisées, par exemple sur Grunewald, sur le détournement de Grunewald par les artistes contemporains.
Le retable dont vous parliez tout à l'heure, le retable de Sénat et de Colmar.
Des religieux qui avaient été intéressés par ça et qui en avaient parlé.
Voilà, je voulais juste citer pour les auditeurs, il s'agit du retable d'Isenheim de Colmar, comme vous dites Colmar, et le retable de Grunewald, qui est une œuvre qui a inspiré, plus qu'inspiré, Velikovic, puisqu'il l'a repris quasiment, le dessin de ses mains crucifiées, c'est surtout ça qui l'a fasciné et qu'on a retrouvé un peu partout.
Effectivement,
dans sa peinture.
Il a porté un regard de peintre. Ce qu'il dit souvent, c'est qu'il regarde en fait les œuvres comme un peintre. Et donc, en tant que peintre, ce qui l'intéresse, ce qui le fascine, ce sont les moyens formels qui sont utilisés. Et en effet, pour Grunewald, c'est un réalisme vraiment très, très macabre, en fait, qui constituait l'œuvre de Grunewald, et en particulier dans ses détails de l'anatomie. Les mains qui sont complètement en crispation. Vous avez une description de Huysmans qui est complètement magnifique dans un roman ici, là-bas. Je crois que je le cite dans le livre. Et ça, c'est extrêmement bien décrit. Vous avez aussi le buste avec ses écorchures, ses traces d'écharnes. Et donc, l'artiste a canalisé dans la série sur Grunewald essentiellement des représentations de corps vus, des bustes, pour mettre en avant cette expressivité, cette représentation très réaliste de la mort et de la souffrance.
Ce qui le caractérise. Donc, on donne rendez-vous aux auditeurs, aux abattoirs, devant les œuvres.
J'espère, en tout cas, que les gens viendront nombreux.
Donc, votre livre est aussi une entrée possible à l'exposition ou un prolongement de l'exposition ou tout simplement une invitation à la découverte de l'œuvre de Velikovic qui s'appelle « Métamorphose du sacré » sur Vladimir Velikovic et c'est aux éditions Galilée. Et puis, il y a le catalogue de l'exposition qui s'appelle « Vladimir Velikovic, les versants du silence » dont vous nous avez expliqué le sens du titre et c'est publié par Les Abattoirs. Donc, rendez-vous à Toulouse. Merci Amélie Adamo.
Merci à vous, merci beaucoup.
Dans l'actualité des expositions, au carrefour de l'histoire du spectacle et de l'histoire mondiale, je vous invite à vous rendre au musée Branly pour voir l'exposition « Exhibition, l'invention du sauvage » qui retrace l'histoire des femmes, des hommes et des enfants venus d'Afrique, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique, que l'on a exhibé dans des spectacles de théâtre, de cabaret, de cirque, et de zoo, oui, de zoo. Lilian Thuram est le commissaire général de cette exposition sur la mise en spectacle de la différence à travers les prismes de l'exotisme et de la monstruosité. Son exposition rend magistralement la mesure d'un imaginaire sordide et mercantile qui a fait le lit de tant de pensées racialistes. 500 pièces sont présentées, allant des affiches aux photos, aux objets, maquettes, bustes, mais aussi quelques tableaux, des films et des documents. C'est à voir du 29 novembre 2011 jusqu'au 3 juin 2012 au musée Branly à Paris. Et cette exposition est née de la rencontre de Lilian Thuram avec Pascal Blanchard, spécialiste de l'histoire coloniale.